Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 25 novembre 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Burkina Faso, 3 soldats ont été tués lors d'une attaque contre un détachement militaire hier. En Somalie, au moins 8 morts dans un attentat à Mogadiscio revendiqué par Al-Shabaab. Au Soudan, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce jeudi contre le pouvoir militaire. Le président gambien Adama Barrow a reçu un rapport officiel sur les crimes commis sous Yahya Jammeh. Covid-19 en Afrique du Sud, un nouveau variant très contagieux et aux mutations multiples a été détecté. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Dans le nord du Burkina Faso, 3 soldats ont été tués et 11 terroristes neutralisés hier lors d'une attaque contre un détachement militaire à Thiou, a annoncé l'armée. Des renforts appuyés par l'armée de l'air sont intervenus pour évacuer les blessés et sécuriser la zone. Par ailleurs, le maire de Ouagadougou a interdit une manifestation prévue samedi pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à empêcher les violences djihadistes. Selon Armand Bewindé, aucune déclaration préalable susceptible de rendre de telles manifestations légales ne lui a été soumise. Nous reviendrons sur ce dossier en partie magazine. En Gambie, un rapport de la commission Vérité et Réconciliation a été remis au président Adama Barrow. Il réclame des poursuites contre les responsables de crimes commis sous Yahya Jammeh. Le point avec Abdourahman Dia.
Parmi les 218 recommandations formulées par la TRRC figurent des poursuites contre les personnes portant la plus grande responsabilité dans les violations des droits humains commises à cette époque, affirme un communiqué distribué par la Commission, sans citer nommément M. Jammeh. Le président Barrow a reçu jeudi ce rapport des mains du président de la TRRC, le Dr Lamine Cissé. Le président Barrow a assuré aux victimes que justice sera faite et qu'un livre blanc sera produit sur les recommandations de la commission. M. Barrow dispose d'un délai d'un mois pour soumettre un résumé du rapport à l'Assemblée nationale et aux organisations internationales comme la CEDEAO et l'ONU. La remise de ce rapport hautement sensible a fortiori dans un contexte de campagne présidentielle avant l'élection du 4 décembre a été reportée à différentes reprises. Amnesty International demande des poursuites contre ceux qui sont incriminés dans le rapport afin, je cite, de veiller à ce que ces violations des droits humains cautionnées par l'État ne se reproduisent pas.
4 pirates sont morts lors d'un échange de tirs avec la marine danoise dans le golfe de Guinée. L'incident s'est produit hier alors que la frégate Esbern Snare cherchait à appréhender au large du Nigeria une embarcation de pirates qui ont ouvert le feu sur les soldats danois. La Cour pénale internationale a déclaré avoir réduit de 2 ans la peine de prison du djihadiste malien Ahmad Al-Faqi El-Mahdi, condamné en 2016 pour son rôle dans la destruction des mausolées à Tombouctou. La peine qui était initialement fixée à 9 ans sera donc purgée au 18 septembre 2022, a indiqué la Cour. Les autorités américaines ont remis au Mali cette semaine 900 objets culturels volés et importés illégalement aux États-Unis. Kadiatou Traoré a joint l'ambassadeur malien auprès de l'ONU, Issa Konfourou, qui a réceptionné ces artefacts au nom du gouvernement malien.
Le Mali et les États-Unis ont signé un accord en 1993 au terme duquel les objets d'art du Mali qui auront fait l'objet de trafic à destination des États-Unis doivent être restitués au Mali. Donc c'est en application de cet accord que les services américains compétents, notamment les Homeland Security Investigations, nous ont informé qu'il y a un certain nombre d'objets d'art d'origine malienne qui sont sur le territoire américain et suspectés d'avoir été l'objet de trafic. Et à l'issue des investigations, ils se sont rendus compte effectivement que ces objets-là se sont retrouvés sur le sol américain de manière illégale. Donc, une fois que l'origine des biens et leur statut illégal ont été confirmés par les autorités américaines, nous avons engagé des démarches auprès d'eux en vue du rapatriement de ces objets.
Issa Konfourou, ambassadeur du Mali auprès de l'ONU. En Somalie, au moins 8 personnes ont été tuées hier et 17 blessées par l'explosion d'une voiture piégée près d'une école de Mogadiscio, une attaque revendiquée par Al-Shabaab. Le point avec Nani Talani.
L'un des responsables des services de sécurité à Mogadiscio, Mohamed Abdilahi, a confirmé l'explosion de la voiture piégée, les morts et les blessés, parmi lesquels figurent 11 écoliers. Le bâtiment de l'école a été sérieusement endommagé et des bus de transport scolaire ont été touchés, a ajouté Ahmed Bar, un garde de sécurité que cite l'AFP. Nous ne savons pas quelle était la cible de l'attaque, a indiqué Mohamed Abdilahi. Mais des témoins soulignent qu'un convoi de l'AMISOM, la force militaire de l'Union africaine en Somalie, passait dans cette zone au moment de l'explosion. Les djihadistes Shebab, liés à Al-Qaïda, qui revendiquent l'attaque, disent dans un communiqué que le bombardement visait un convoi sans dire lequel, selon certaines sources. D'autres précisent qu'Al-Shabaab visait des formateurs militaires. L'attentat intervient quelques jours après l'assassinat samedi par les mêmes Shebab d'un éminent journaliste somalien. En septembre, deux de leurs attaques ont fait 17 morts à Mogadiscio.
Au Soudan, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté aujourd'hui contre le pouvoir militaire. Ils réclament un véritable changement dans le pays où un accord a réinstallé le premier ministre civil tout en renforçant la mainmise de l'armée après le putsch du 25 octobre. Le point avec Jacques Aristide.
Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants dans la banlieue de Khartoum et dans d'autres régions du pays, d'après des témoins. Je manifeste contre l'accord entre Bourane et Hamdok parce qu'il barre la route à un gouvernement uniquement civil, alors que nous, on ne veut pas de militaires en politique, affirme Souher Hamadenil, une protestataire à Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Bourhan, auteur du coup d'État, a permis à Abdallah Hamdok, évincé par les militaires le jour du putsch, de retrouver son poste dimanche dernier, comme le réclamait la communauté internationale. Mais la rue dit ne pas vouloir d'un chef du gouvernement civil qui est, selon elle, complètement inféodé aux généraux, dont la répression depuis le coup d'État a déjà fait au moins 42 morts et des centaines de blessés parmi les manifestants. Des dirigeants mondiaux dénoncent une répression menée à balles réelles. Volker Perthes, l'émissaire de l'ONU au Soudan, appelle à éviter les effusions de sang et les arrestations arbitraires. Les nouveaux défilés, ajoute-t-il, sont un test pour Khartoum, dont une bonne part de l'aide internationale est toujours suspendue, de même que ses activités au sein de l'Union africaine.
Au moins 43 personnes ont été tuées et 46 villages incendiés et pillés au Darfour dans des violences entre éleveurs, rapporte aujourd'hui l'ONU. Ces violences qui ont duré plusieurs jours ont éclaté le 17 novembre. Les affrontements ont opposé des membres de plusieurs tribus arabes dans la région montagneuse du Jebel Moun, dans l'état du Darfour Ouest. En République démocratique du Congo, au moins 4 personnes, dont 2 ressortissants chinois, ont été tuées dans l'attaque par des miliciens d'un site d'exploitation artisanale d'or dans le nord-est du pays. Le groupe armé Codeco a attaqué hier le site minier de Damblo dans le territoire de Djougou, indiqué Lokana Pay, président de la société civile de Mungwalu en Ituri.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un nouveau variant Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud. La propagation du virus continue de faire des morts dans le monde. Le point avec John Linden.
Le variant B11529 présente un nombre extrêmement élevé de mutations et nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide, a déclaré le virologue Tulio de Oliveira lors d'une conférence de presse en ligne chapeautée par le ministère de la Santé. Son équipe de l'Institut de recherche CRIPS, adossée à l'Université du KwaZulu-Natal, avait déjà découvert l'année dernière le variant bêta très contagieux. Pour le moment, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l'efficacité des vaccins anti-COVID existants contre la nouvelle forme du virus. À ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles. Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud. Le COVID-19 a fait plus de 5 millions de morts dans le monde depuis fin 2019. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec près de 775 000 décès.
La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a appelé un effort international coordonné pour lutter contre les groupes criminels qui organisent les traversées illégales de la Manche. Après la mort de 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation, il faut briser ces gangs criminels et s'attaquer aux chaînes d'approvisionnement, a déclaré Madame Patel devant les députés. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Kenya Airways et South African Airways ont signé mercredi un nouveau cadre de partenariat stratégique dans le projet de création d'une compagnie aérienne panafricaine en 2023. Selon l'agence Ecofin, la signature de cette convention, publiée sur les comptes Twitter des deux transporteurs, s'est faite dans le cadre de la visite d'État de 3 jours qu'a effectué le président kenyan Uhuru Kenyatta chez son homologue sud-africain. La fondation Tony Elumelu devrait débourser un peu plus de 24 millions de dollars pour autonomiser les entrepreneurs africains. D'après Financial Afrique, c'est environ 4 949 entrepreneurs issus de toute l'Afrique qui ont été sélectionnés pour son programme d'entrepreneuriat 2021. Depuis sa création, la fondation a financé plus de 15 000 entrepreneurs qui ont créé plus de 400 000 emplois directs et indirect.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La commission électorale de la Fédération camerounaise de football a validé la candidature de Samuel Etofis. L'ancien capitaine des Lions indomptables est donc désormais officiellement candidat à la présidence de la FECAFOOT, dont l'élection est prévue pour le 11 décembre prochain. Au total, 6 candidats sont en course pour la succession du président sortant Seydou Mbombo Ndjoya, candidat à sa propre succession. Les autres candidats sont Niamsi Jean Crépin Sauté, Onana Jules Denis, Tagou Justin et Wanjaï Zachary. La justice kenyane abandonne les accusations de corruption contre le président suspendu de l'instance nationale de football et déclare l'affaire classée après que l'État n'a fourni aucune preuve contre lui. Nick Mandawa a été arrêté le 12 novembre, un jour après que la ministre des Sports Amina Mohamed a dissous la fédération et mis en place un comité intérimaire pour gérer ses affaires. Elle soutenait qu'une enquête a révélé des irrégularités financières présumées au cours de son mandat. Mandawa, qui dirige la Fédération kenyane de football depuis 2016, est aussi propriétaire du club de ligue de Kariobangi, Shark. L'accusation a toutefois affirmé qu'elle comptait poursuivre les enquêtes sur les finances de la fédération. En Europe, Manchester City a battu le Paris Saint-Germain 2-1 hier en Angleterre lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, mais les deux équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Qualification en 8e également pour le Real Madrid qui a battu le Sheriff Tiraspol 3-0, tout comme l'Inter Milan, vainqueur du Shakhtar 2-0. 1-0 pour l'AC Milan devant l'Atlético Madrid. Déjà qualifié, Liverpool a disposé du FC Porto 2-0, dont un but de Mohamed Salah. Au classement des buteurs, justement, l'international ivoirien Sébastien Haller, auteur d'un doublé avec l'Ajax sur la pelouse du Besiktas, rejoint Robert Lewandowski du Bayern Munich en tête du classement avec 9 buts chacun. Un autre joueur a frappé 2 fois, le français Christopher Nkunku pour le RB Leipzig contre Bruges, 5-0 au total. De quoi s'installer seul au 3e rang avec 7 buts devant Cristiano Ronaldo de Manchester United et Mohamed Salah de Liverpool, 6 réalisations chacun. NBA, les Lakers ont renoué in extremis avec le succès sur le parquet des Pacers 124-116. Leader à l'Ouest, les Warriors ont ajouté une victoire de plus à leur remarquable début de saison en s'imposant à domicile 116-96 face à des Sixers toujours diminués en l'absence de la star camerounaise Joel Embiid, de Ben Simmons et Tobias Harris. Les Suns de Phoenix, dauphins des Warriors, ont enchaîné dans le même temps un 14e match sans défaite en allant battre les Cavaliers chez eux 120-115. Toujours à l'ouest, le Jazz est allé s'imposer à Oklahoma City 110-104. À l'est, les Nets ont enchaîné une quatrième victoire consécutive en battant les Celtics sur leur parquet 123-104. Chicago s'est incliné à Houston 118-113 et Charlotte a gagné à Orlando 106-99.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, dit espérer un aboutissement rapide des discussions en cours avec les organisateurs des manifestations contre le passage d'un convoi militaire français. Ce convoi en provenance de la Côte d'Ivoire et qui se rend au Niger est bloqué dans le pays depuis la semaine dernière. Face à la recrudescence des attaques terroristes, la société civile prévoit des marches samedi pour réclamer le départ du président Kabore. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Paul Miki Rwamba, éditorialiste à LCA TV.
Je pense pas que ça passe, ces arguments, au sein de l'opinion, parce que les manifestants avaient dit clairement qu'ils ne voudraient pas voir justement la présence de l'armée française dans le Sahel. Donc ça suppose que ce n'est pas une lutte que pour le Burkina, c'est une lutte également pour le Mali, pour le Niger. Vous avez certainement eu vent que déjà les Nigériens se sont déjà mobilisés également et pour empêcher le passage de ce convoi. Donc je doute fort que les arguments avancés par le ministre burkinabé des Affaires étrangères puissent convaincre justement ces manifestants, parce que pour eux, il faut que le convoi fasse demi-tour jusqu'à Abidjan.
Est-ce que vous pensez que les autorités ne prennent pas la mesure de ce sentiment anti-français?
Non, je pense que les autorités prennent la mesure de ce sentiment anti-français qui sort justement de la société civile, d'une certaine opinion publique africaine. Mais vous savez certainement que les relations entre nos États et la France particulièrement sont des relations assez fortes, basées justement sur l'histoire, sur une certaine donc emprise de l'ex-colonie sur nos États. Donc elles sont également obligées de respecter les accords qu'elles ont aussi signés. Les autorités burkinabées, je crois que c'est pareil pour celles du Niger et du Mali, sont entre le marteau de la société civile mobilisée et l'enclume de la France qui voudrait effectivement que les accords soient respectés.
Vous parliez d'Internet qui avait été coupé pour 96 heures dû justement à cette situation liée au convoi militaire français. Les 96 ont été reconduites. Est-ce que vous pensez que cela va exacerber la colère de la population?
Non, je pense que la coupure d'Internet pourra avoir pour effet de permettre effectivement le convoi de passer en catimini. Cela d'autant plus que depuis qu'Internet est coupé, on n'arrive même plus à localiser ce convoi. Alors que quand le réseau était fluide, on voyait le convoi, les gens faisaient les photos et on alertait tout le monde en temps réel. Mais de toute façon, ce ne sera pas une solution durable. Cela d'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça peut contribuer justement à exacerber les colères des gens parce qu'au-delà de ce convoi, il y a effectivement pas mal des choses qui sont dénoncées de plus en plus ici au Burkina. Et vous savez certainement que la coupure d'Internet intervient quelques jours avant une manifestation qui est annoncée pour samedi ici à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina. Donc les gens font rapidement le lien. Il est question effectivement de faire échec à cette manifestation quand on sait que les réseaux sociaux sont les outils les plus utilisés, beaucoup mieux que les médias, et pour mobiliser les gens.
Paul Miki est journaliste à Ouagadougou. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, ont exhorté leurs citoyens à quitter l'Éthiopie, alors que les combats entre l'armée et les groupes rebelles se rapprochent de la capitale Addis Abeba. Les présidents du Kenya et de l'Afrique du Sud voisins se sont joints aux appels à un cessez-le-feu. Mohamed Youssouf du bureau de la Voix de l'Amérique à Nairobi s'est entretenu avec des analystes sur les perspectives de paix en Éthiopie dans ce reportage rendu par Jacques Aristide.
À mesure que la situation sécuritaire s'aggrave en Éthiopie, les inquiétudes ne font que croître quant à la suite des événements. William Davison est chercheur sur l'Éthiopie à l'International Crisis Group.
Il y a une réelle perspective que la guerre arrive à Addis Abeba et cela pourrait avoir des conséquences encore plus graves que celles que nous avons vues jusqu'à présent. Une guerre urbaine très grave. Nous pourrions assister à des affrontements entre les Amara et les Oromo si le groupe Ola est impliqué dans une grande résistance populaire. Évidemment, contre les forces du Tigré, le possible échec de l'autorité gouvernementale serait un effort pour changer de régime. On a pu voir l'augmentation rapide de la violence contre les civils tigréens et de la répression. Il faut donc absolument un cessez-le-feu.
La chaîne CNN rapporte que l'armée américaine a préparé des troupes spéciales pour venir en aide aux employés de l'ambassade des États-Unis, de même que les ressortissants américains en Éthiopie si la situation se détériore. Mardi, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique a fait état de progrès en vue d'amener toutes les parties à accepter un arrêt des combats. Jeffrey Feltman a toutefois dit craindre que la confrontation militaire ne mette en danger la stabilité et l'unité de l'Éthiopie. Les chefs d'État kényans et sud-africains ont également appelé à un cessez-le-feu. Les hostilités dans la région du Tigré ont éclaté en novembre de l'année dernière entre l'armée éthiopienne et le Front populaire de libération du Tigré. Depuis lors, le conflit s'est étendu à d'autres régions du pays. Les forces du Tigré et le groupe OLA, l'armée de libération Oromo, menacent de chasser le premier ministre Abiy Ahmed du pouvoir en prenant d'assaut à Addis Abeba. Mardi, Abiy Ahmed a déclaré qu'il serait en première ligne pour guider les militaires contre l'avancée des groupes rebelles. Tobias Wellner est un analyste du renseignement pour l'Afrique subsaharienne chez Dragonfly Intelligence. Pour lui, le chef du gouvernement éthiopien veut ainsi maintenir le moral des troupes.
Is really to rally support. As the government is clearly struggling to defend sort of against.
Il s'agit de rallier le soutien de tout le monde alors que le gouvernement a du mal à se défendre contre l'avancée des forces rebelles. Personnellement, je pense qu'il est très peu probable qu'Abi se batte lui-même. C'est plus un acte de propagande et cela signifie aussi que c'est un signe qu'Abi se battra jusqu'au bout plutôt que de démissionner de son poste.
Mercredi, le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legge Stoulou, a déclaré que le Premier ministre était au front sans donner de détails. En l'absence d'Abiy Ahmed, son adjoint Demeke Mekonnen gère les affaires courantes du gouvernement, toujours d'après Toulouse. Le chercheur Tobias Wellner est d'avis qu'il n'y aura pas de vainqueur dans cette guerre. La victoire d'un camp ou de l'autre aboutira à davantage de rébellions dans le pays, dit-il.
The connections between the TDF and the OLA and other.
Le TDF et l'OLA ainsi que d'autres groupes rebelles qui ont rejoint la mêlée forment une alliance très prudente et pas si forte. À l'heure actuelle, ils sont sous l'égide de l'opposition à Abiy Ahmed, mais s'ils doivent gouverner l'Éthiopie, c'est une autre paire de manches. L'ethnopolitique fera surface et rendra cette alliance très fragile. Dernier scénario d'une impasse, il y aura une sorte de cessez-le-feu qui sera souvent rompu.
Les dirigeants du Tigré appellent à lever le blocus humanitaire afin que plus de 400 000 habitants puissent recevoir l'aide dont ils ont tant besoin. Le gouvernement éthiopien veut pour sa part que les forces du Tigré et d'autres groupes rebelles quittent les régions du pays qu'ils ont capturées.
Un nouveau variant du coronavirus a été détecté en Afrique du Sud. C'est ce qu'ont annoncé des scientifiques ce jeudi. Ce variant est encore à l'étude, mais les experts disent observer qu'il a un potentiel de propagation très rapide. En outre, à ce stade, les scientifiques ne sont pas certains de l'efficacité des vaccins anti-Covid existants contre la nouvelle forme du virus. Pour une analyse, Mouamadou Oumfa a joint le docteur Roger Etoa, il est médecin de santé publique à Douala au Cameroun.
C'est un nouveau variant découvert en Afrique du Sud dont le nom exact est dans la nomenclature scientifique B.1.1.1.29 qui a été découvert par l'Institut de recherche CRISP de l'Université de KwaZulu-Natal. C'est un variant qui il a un niveau de contagiosité qui est beaucoup plus accru et il arrive également à contourner le système immunitaire. À ce jour, on a déjà dépisté 22 cas en Afrique du Sud et principalement les jeunes. Donc c'est un variant qui est considéré aujourd'hui comme une menace majeure de santé publique.
Techniquement, on sait déjà que les virus mutent et peuvent générer de nouveaux variants. Quels peuvent être les risques associés à de nouveaux variants de ce type?
Le risque, c'est d'abord la contagiosité. Comme il y a une contagiosité beaucoup plus forte que les variants précédents, ils pourront rapidement devenir majoritaires au sein de la population et devenir donc la principale menace et qui peut donc détruire l'efficacité des vaccins actuels qui est déjà réduit en taux d'efficacité de 40% en raison du variant Delta. Donc ce nouveau variant risque encore de complètement réduire tous les efforts que la communauté scientifique a mis au point pour faire bénéficier à l'humanité des vaccins pour lutter contre cette pandémie.
Mais il y a des variants qui apparaissent mais qui ne sont pas aussi contagieux. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un nouveau variant soit plus contagieux que d'autres?
Ça dépend du style de mutation qui s'est opéré sur le virus. Si la mutation a touché des gènes, notamment sur la contagiosité, évidemment, il sera beaucoup plus contagieux. Il y a des mutations, des variants qui touchent peut-être le niveau de virulence, qui ne sont pas très contagieux, mais sur ce variant, principalement, c'est son niveau de contagiosité qui a été accru. C'est pour cela qu'il a un potentiel de devenir rapidement majoritaire au sein de la population. Mais on n'en sait encore rien sur son niveau de létalité. On ne sait pas s'il tue plus ou moins que les variants précédents. On va le découvrir certainement dans les jours ou voire les semaines à venir.
Le docteur Roger Etoua, un médecin de santé publique à Douala au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
Aux États-Unis, on célèbre aujourd'hui Thanksgiving ou la fête d'action de grâce. Historiquement, c'est la fête de la moisson durant laquelle les colons européens nouvellement installés remerciaient Dieu par des prières et des réjouissances pour les bienfaits reçus pendant l'année. Thanksgiving est désormais l'occasion de retrouvailles familiales, comme l'explique Carl Noël Lebonzo, membre de la communauté congolaise dans l'état du Nouveau-Mexique. Il est joint par Nani Talani.
Je viens du Congo, c'est vrai qu'il n'y a pas de Thanksgiving, mais une fois arrivé ici, on s'adapte à la culture américaine et je célèbre le Thanksgiving parce que je suis dans le pays où je vis et il faut s'intégrer. Cette année, je suis venu célébrer New Mexico, la Nouvelle-Mexique, avec les amis, ils m'ont invité, donc je suis venu ici en famille célébrer avec eux.
Que mangez-vous souvent pendant la Thanksgiving en tant qu'une famille d'immigrés?
Bon, souvent, on mange un peu de tout. Hein. C'est vrai qu'on mange la dinde et tout ce qui vient avec. Ben, c'est vrai aussi qu'on a nos mets traditionnels, la nourriture africaine, congolaise, notamment le sakasaka et le manioc aussi, pour accompagner la dinde. Généralement, on fait beaucoup de dinde et on prépare comme les Américains et comme les Congolais. Donc, de différentes façons, quoi.
Comment célébrez-vous souvent la fête?
Généralement, on célèbre ça avec les amis de la communauté. On invite chaque famille, on se rencontre et chacun emmène quelque chose. Et puis, on célèbre ensemble. C'est comme ça qu'on fait la Thanksgiving le plus souvent.
Un souhait à toutes les personnes qui sont en train de célébrer Thanksgiving aujourd'hui.
Bonne fête à toutes les personnes qui célèbrent la Thanksgiving aujourd'hui. C'est une fête où il faut penser aux autres. Il faut remercier aussi le bon Dieu. Donc, bonne fête à tout le monde.
En dehors de Carl Lebonzo, nous avons aussi parlé avec Giovanni Merle, un chef cuisinier d'origine mauricienne qui a déjà célébré la fête de Thanksgiving.
Parle de la Thanksgiving. Et normalement, ce que ça représente pour moi, ça représente un jour de remerciement, je voudrais dire. Moi, je pense que c'est ça le main highlight pour la Thanksgiving. Si je célèbre la Thanksgiving, préparer beaucoup de différents plats, je voudrais dire, un mélange du caribéen, américain et aussi une cuisine typique française traditionnelle.
Comment avez-vous préparé la traditionnelle dinde que les Américains appellent turkey?
Non, je ne suis pas vraiment un fan de turkey, mais si, j'ai déjà préparé des turkey rôti.
Rôti comme les Américains?
un peu différent parce que les épices que j'utilise définitivement vont atteindre la recette traditionnelle américaine. Avec la force, etc.
Carl Noël Lebonzo est membre de la communauté congolaise dans l'état du Nouveau-Mexique, ici aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. À très bientôt et bon courage.